Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, on va parler de Napoléon et de ses projets avortés d'envahir l'Australie. Avec Christophe Mallet, on fera aussi le point sur les actualités sportives et les actualités françaises. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal et des actualités. Allez, on y va! Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 30 mars 2021. 10 nouveaux cas et 2 clusters différents recensés par les autorités dans le Queensland alors que Brisbane entame aujourd'hui son premier jour de reconfinement. En Égypte, le canal de Suez est enfin débloqué après 6 jours d'interruption totale du trafic maritime. Et aux États-Unis, le procès du policier, auteur de la bavure qui a conduit à la mort de George Floyd, vient de s'ouvrir. Et je vous le disais, la situation se complique dans le Queensland où on vient de détecter 10 nouveaux cas de coronavirus au premier jour d'un confinement qui frappe les habitants de Brisbane. 10 nouveaux cas donc et surtout 2 clusters différents. Janet Young, la médecin-chef de l'État du Queensland, défend pour sa part le reconfinement à Brisbane. Il est selon elle indispensable pour remonter la piste de tous les cas contacts.
We've had a lot of people now out in the community infectious. So that's why we need this 3-day lockdown to get on top of all of the contacts of all of these positive cases and work out where they've been. And having everyone in their home instead of out and about in the community just helps us get on top of all of the contacts and minimize the risk of further spread.
Ce reconfinement, bien sûr, c'est une très mauvaise nouvelle pour les professionnels du tourisme dans l'État du Queensland, alors qu'on est à quelques jours seulement du début des vacances de Pâques. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré qu'elle comprenait parfaitement les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur. Elle espère par ailleurs que ces 3 jours de confinement permettront d'enrayer ce nouveau foyer épidémique et qu'il n'aura pas besoin d'être prolongé.
It is a very big and a very tough call. A lot of operators across Queensland, of course, are very much looking forward to the school holidays. And we are keeping our fingers crossed that this current breakout can be contained in the 3 days, which will allow people to go ahead and enjoy their Easter plans.
Et aucun nouveau cas de transmission locale enregistré aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud. Pourtant, dans cet état, les autorités sont moins optimistes que dans le Queensland. Kerry Chant, la Madame Santé en Nouvelle-Galles du Sud, s'attend à l'apparition de nouveaux cas, alors que des personnes contaminées à Brisbane ont fréquenté récemment plusieurs établissements à Byron Bay, une ville hautement touristique.
So therefore, I'm urging anyone who was in Byron on that weekend to please be particularly vigilant. We're asking people from Greater Brisbane not to visit aged care facilities or hospitals or disability care homes. But I can't stress enough that we need everyone to come out for testing. We need the assurance that we're not missing cases, particularly in that northern region. We know that there is driving distance between us and Brisbane. We're assessing the risk day by day.
Et sur le plan politique, le Parti travailliste vient lui d'annoncer son plan pour relancer l'emploi. Leur leader, Anthony Albanese, promet un fonds de 15 milliards de dollars s'il est élu. Il estime que la pandémie a mis en lumière les faiblesses de l'économie australienne. Écoutez-le.
The fact that we're not resilient enough, that we're susceptible to shocks, the fact that we didn't have enough PPE, we didn't have enough ventilators. There's a whole range of products that we're simply not producing. Australia's National Reconstruction Fund will drive future jobs growth and our economy. It will be particularly beneficial for our regions.
Et conséquence inattendue des inondations en Nouvelle-Galles du Sud, les stocks de sang sont au plus bas en raison d'une forte baisse des dons ces derniers jours. La Croix-Rouge australienne fait donc appel aux dons en amont du week-end de Pâques, et alors qu'il faudrait au moins 8000 poches de sang supplémentaires pour retrouver un niveau de stock normal. D'après Kath Stone, qui est directrice de Lifeblood, c'est notamment du sang de type O négatif, du plasma mais aussi des plaquettes dont on manque.
Over the holiday period, we often see that as our donors go on holidays, they're not thinking about donation as being top of mind, but our need for platelets doesn't stop. So it's not just about the red stuff. Plasma and plasma medicines are often the last line of defense and treatment of different types of conditions, whether it's cancer, autoimmune conditions, bleeding disorders, or burns patients. The challenging thing about platelets is they only last for 5 days. So that means we can't stockpile them.
Et direction maintenant l'Égypte, où l'énorme porte-conteneur Ever Given est enfin débloqué. Après 6 jours d'interruption totale du trafic maritime sur le canal de Suez, l'une des voies commerciales les plus fréquentées au monde, cet incident a causé des milliards de dollars de pertes. On fait le point sur le sujet avec Anouchka Komor de Radio France Internationale.
Il y a d'abord la valeur totale des biens bloqués ou devant emprunter une autre route à cause du blocage du canal de Suez. Selon les estimations, ces sommes oscillent entre 3 milliards de dollars par jour et 9,6 milliards. L'incertitude quant au délai nécessaire pour une reprise du trafic dans le canal pose ensuite la question du ravitaillement des équipages, mais aussi du bétail bloqué depuis 6 jours sur l'Ever Given. 11 navires partis de Roumanie et transportant 130 000 moutons sont affectés. L'organisation Animals International s'inquiète du risque d'une tragédie impliquant des animaux vivants. L'Égypte a envoyé du fourrage et 3 équipes vétérinaires pour examiner les animaux. Des pétroliers aux navires transportant du thé ou de l'ameublement, la file d'attente s'allonge. Plusieurs géants du transport maritime comme le danois Maersk ou le français CMA CGM ont dérouté certains de leurs navires par le cap de Bonne-Espérance, un détour pouvant leur coûter 7 jours supplémentaires, mais d'autres navires continuent d'arriver aux abords du canal.
Aux États-Unis, début du procès de Derek Chauvin, le policier qui a provoqué la mort de l'Afro-Américain George Floyd l'an dernier en s'agenouillant pendant plus de 8 minutes sur son cou. La vidéo de cette bavure qui a déclenché l'an dernier une vague d'indignation mondiale, mais aussi des manifestations un peu partout dans le monde contre les violences policières, sera bien sûr au cœur de ce procès. Écoutez ce qu'en dit le procureur spécial Jerry Blackwell. Il en a parlé aux jurés à l'ouverture de cette audience.
Dans cette vidéo, vous allez entendre M. Floyd s'écrier, vous allez l'entendre appeler sa mère. Vous allez l'entendre dire « Dites à mes enfants que je les aime ». Vous allez l'entendre crier sa peur de mourir en disant « Je vais mourir comme ça si ça continue ». Je n'en peux plus, ils vont me tuer. Ils vont me tuer les gars. Vous allez l'entendre s'écrier et vous allez le voir s'écrier en souffrance. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cou, j'ai mal partout.
My stomach hurts, my neck hurts, everything hurts.
Vous entendrez aussi, s'il vous plaît, avec votre genou sur mon cou, je ne peux pas respirer. Et vous verrez aussi que pendant tout ce temps, M. Chauvin ne bouge pas. Son genou reste sur son cou, ses lunettes de soleil restent impassiblement sur sa tête. Et ça continue comme ça. Puis vous entendrez ses derniers mots quand il dit « je ne peux pas respirer ».
Et on reste aux États-Unis où hier on a eu un vote historique. Les 5300 employés d'Amazon à Bessemer dans l'Alabama ont choisi de rejoindre le puissant syndicat de la grande distribution RWDSU, une première pour le géant du commerce électronique qui s'est battu de toutes ses forces pour empêcher la syndicalisation de ses employés. La nouvelle, en revanche, bien sûr, ravit Michael Foster, représentant de ce fameux syndicat en Alabama. Écoutez-le.
Les travailleurs d'Amazon sont en train d'accomplir quelque chose de grand en ce moment. Ils vont faire briller une lumière à travers le monde, montrer à tous que cela peut être réalisé partout. Cela permettra à beaucoup de gens de voir qu'ils traversent les mêmes épreuves. Et si les gens de Bessemer peuvent réussir, alors d'autres peuvent le faire. Nous faisons quelque chose qui dépasse nos intérêts. Les gens d'Amazon implorent de l'aide. Nous ne sommes pas là pour prendre le contrôle de quoi que ce soit, mais pour permettre aux gens d'avoir un siège à la table des négociations pour être entendus. Nous ne nous sommes pas entendus pour l'instant. Ils ne comprennent pas qu'ils sont venus dans l'un des coins les plus pauvres d'Alabama. Les employés d'Amazon à Bessemer sont en majorité noirs. Mais ce à quoi Amazon ne s'attendait pas, c'est qu'un groupe de personnes se rassemble. Ils ne pensaient pas qu'un jour nouveau commencerait ici.
En France, l'Assemblée nationale a commencé hier à examiner le projet de loi Climat et Résilience. Trois semaines de débats sont prévues autour de ce texte qui doit amorcer la réduction des gaz à effet de serre en France. Un texte ambitieux d'après le gouvernement qui défend bien sûr ce projet de loi. Écoutez la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
C'est bien tout l'enjeu du texte que je vous présente aujourd'hui. Dessiner la France de 2030 sans laisser personne au bord du chemin. Définir une écologie pratique. Car ce texte est une loi de bon sens, tout simplement. C'est une véritable bascule culturelle globale qui fera de l'écologie une réalité du quotidien. Alors ce texte, maintenant, il est là et je crois qu'il est une chance.
Alors ce texte, en revanche, dans les rangs de l'opposition, il est très critiqué. La droite y dénonce des mesures d'écologie punitives, tandis qu'à gauche, la gauche plutôt, estime elle que ce texte ne va pas assez loin. Écoutez sur le sujet le député insoumis Jean-Luc Mélenchon.
Ce qui compte, c'est moins ce que vous proposez de faire que ce que vous décidez de ne pas faire. Comment peut-on faire une loi sur le climat sans dire un mot du moratoire sur les accords internationaux tels que CETA, Mercosur, qui sont des invitations surpuissantes au saccage de la planète ? J'en passe, et sans doute des pires. Ne pas être à l'heure, c'est dangereux, car le changement climatique est commencé.
Et pour finir, comme d'habitude, on jette un œil à la météo de ce mardi en Australie. 29 degrés et du soleil à Perth, soleil aussi à Adélaïde avec 27 degrés. 20 degrés seulement à Melbourne, qui est sous les nuages aujourd'hui. 23 degrés à Sydney, où le temps est également couvert. 26 degrés à Brisbane, où la journée va être ponctuée par des averses. 31 degrés à Cairns et enfin 35 à Darwin, où comme d'habitude en cette saison, il va faire très lourd aujourd'hui. Voilà, et puis ben, si vous étiez un petit peu endormi, là, je suis sûr que vous êtes réveillé avec ce morceau Bonobo Boîte de Nuit du groupe Marabout. On va maintenant retrouver Christophe Mallet pour le magazine des sports.
Journal des sports, et on commence avec bien du cyclisme. Et ce week-end sur SBS, c'était la course belge Gent-Wevelgem, une néo-classique remportée chez les femmes par Marion Vos. On écoute les dernières minutes, les dernières secondes de ce sprint.
Sarah Roy being led out by Grace Brown. The two leaders, it's still Elisa Longo Borghini. Paladin just about being dropped. As Grace Brown has done the job for Sarah Roy to try and set up the sprint for her. Lorena Vivas is also in amongst the sprints. It's Vos who leads out. Roy in the centre of the picture. Mariana Vos just checking underneath her legs. Balsamo is also coming through in the pink colours. Vos holding on. She keeps checking. She wins.
Donc Marianne Vos qui remporte cette course Gent-Wevelgem avec au micro, vous l'aurez connu, Matthew Keenan. Une victoire donc pour la Jumbo-Visma, non, deux victoires pour la Jumbo-Visma, puisque eh bien, chez les hommes, c'est le Belge Wout van Aert qui remporte donc l'édition masculine, 15e Belge à remporter cette course. On écoute Wout van Aert.
Well, it was a sprint at high speed. We had a tailwind all the way back from the Kemmelberg. and yeah, I knew I had to launch early enough, and yeah, it was, everything went perfect and nobody came aside, so yeah, just happy. It was only a group of about 20 guys, so yeah, it's a big group, but still you have to do a lot of turns, and it was, yeah, the whole day, and the crosswinds never stopped actually, and yeah, this is a massive effort, but definitely worth it.
Bah donc Wout Van Aert pour le cyclisme et donc cette victoire à Gent Wevelgem. Allez, on va parler maintenant de rugby et après la déconvenance des Français dans le tournoi des Six Nations, on sait qu'ils sont passés tout près de remporter ce tournoi. Et cette défaite dans les dernières secondes face à l'Écosse, on ne va pas revenir dessus, mais on va parler de l'avenir et du nouveau complexe d'entraînement pour les rugbymen français visité par le Premier ministre Jean Castex.
Pas simplement, si je puis m'exprimer ainsi, d'organiser un grand événement, si possible de le gagner.
Je vous rappelle, monsieur le ministre,
le jouant à domicile. Il faut que cet événement laisse des traces. Il faut que son organisation, le fait même qu'il ait lieu dans notre pays, permette de faire progresser le sport concerné, le rugby, mais notre pays dans son ensemble.
Voilà donc pour le rugby. Allez, pour conclure, on va faire un petit cocorico. C'est pas tous les ans que ça arrive. Un Français champion du monde en général, globe de cristal, donc en ski, c'est arrivé il y a quelques semaines. Avant Alexis Peintureau, eh bien, il y avait eu Jean-Claude Killy et Luc Alphand. C'est tout chez les hommes pour avoir remporté cette grande coupe du monde de ski. Eh bien, on a la chance de pouvoir vous passer un petit bout d'une interview avec Alexis Peintureau. Il revient sur cette victoire et à quel point c'est énorme pour le ski français.
C'est une certaine forme de fierté, surtout de se dire je l'ai fait, j'ai réussi. Automatiquement, beaucoup aussi d'émotions sur le moment qui étaient partagées, hein, le stress qui s'en va, mais en même temps énormément de joie avec la victoire que j'ai pu obtenir ce jour-là, qui a finalement permis ce dénouement. Donc beaucoup de sensations et de sentiments mêlés. Toute la saison sert finalement à écrémer, hein, à donner juste la possibilité à certains uniquement de pouvoir se battre jusqu'à la fin. Et puis c'est à la fin qu'il faut essayer au maximum de faire la différence et de se distinguer. C'est justement ce qui s'est passé, ce qui m'a permis d'aller chercher le classement du général et puis le classement aussi de la discipline du géant. C'est pas possible aujourd'hui d'être bon dans une seule discipline et d'ambitionner gagner le classement général de la Coupe du Monde. Ça, c'est pas possible. Ça parle minimum à un athlète qui est très bon dans deux, voire trois disciplines. Donc il faut être un skieur complet et il faut être à même surtout de marquer des gros points dans chacune des disciplines où on prend le départ. Parce que faire trois disciplines, c'est une chose, mais de pouvoir les gagner et être régulièrement sur le podium, c'en est une autre. Le gros globe, il faut savoir que c'est dans les détails que ça se joue et pour pouvoir aller chercher ces petits détails, il faut une bonne organisation autour, il faut quelque chose qui soit flexible, qui soit réactif et donc d'avoir mis ça en place avec la fédération, une cellule un peu plus individualisée au sein même de la FFS, ça a donné l'avantage et du coup les résultats que je connais aujourd'hui.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants dans le reste du programme, à tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Not English today.
Et c'était un morceau qu'on aime vraiment beaucoup à SBS French. Vous avez dû l'entendre plusieurs fois si vous nous écoutez régulièrement. C'est le morceau No Tony du DJ français Monsieur Oiseau. 13h27 sur SBS French. Tout de suite, on retrouve Christophe Mallet de nouveau, cette fois pour faire le point sur les actualités de la semaine en France. On va revenir notamment sur les derniers rebondissements concernant le scandale du Mediator.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors avant de faire le point sur l'épidémie de Covid-19, revenons sur la condamnation des laboratoires Servier dans l'affaire du Mediator.
Oui, le groupe pharmaceutique Servier, entreprise française, le groupe Servier qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour, je cite les termes du délibéré, tromperie aggravée et homicide et blessures involontaire. Le groupe Servier est condamné à 3 millions d'amendes, mais surtout à verser quelque 180 millions d'euros de dédommagement aux victimes. Le procès s'était achevé en juillet dernier, au terme de plusieurs mois d'audience, et on va revenir aux questions qui se sont posées durant ce procès. Plus de 500 heures d'audience, un procès hors norme que l'on a appelé le procès du Mediator. Le Mediator, c'est ce médicament que les laboratoires Servier ont commercialisé à partir de 1976. Il était censé être prescrit au départ dans le cadre de traitement du diabète, mais très vite, il s'est avéré que le Mediator avait des effets coupe-faim. Ainsi, durant des décennies, des centaines de milliers de personnes, on parle de 5 millions de personnes en France, auraient pris le médicament, le Mediator, alors qu'elles ne souffraient ni de diabète, ni de cholestérol, mais on leur prescrivait ce médicament pour perdre quelques kilos, un médicament coupe-faim. Le Mediator avait des effets secondaires, des effets toxiques. Le Mediator a provoqué chez certains patients des lésions des valves cardiaques. Or, et c'est là tout ce qui était au cœur de ce procès, il s'avère que le groupe Servier savait que le médicament était toxique. Il savait qu'il pouvait être extrêmement dangereux, et ce, dès les premières années de la commercialisation. Plusieurs fois, dans les années 90 notamment, il y a eu des alertes sur la dangerosité du Mediator, mais le groupe Servier a tout mis en œuvre pour étouffer ces informations qui commençaient à sortir, car la vente du Mediator pour le labo pharmaceutique était extrêmement lucrative. C'était l'un des médicaments phares du groupe. Le tribunal n'a pas retenu le délit d'escroquerie. Mais la présidente, ce lundi, a été très claire dans son délibéré. Malgré la connaissance qu'ils avaient des risques encourus depuis de très nombreuses années, a-t-elle dit, les laboratoires Servier n'ont jamais pris les mesures qui s'imposaient.
Mais Émile, est-ce que l'on sait combien de victimes le Mediator a fait ?
Oui, combien de victimes ? Difficile de le savoir exactement. Certaines personnes qui prenaient le médicament en sont peut-être mortes indirectement sans le savoir. Le Mediator, en tout cas, a fait énormément de victimes. On estime, ce sont les chiffres qui ont été communiqués durant le procès, qu'entre 1500 et 2100 personnes sont mortes au fil de toutes ces années pour avoir pris ce médicament toxique, le Mediator, quelques 2000 morts, sans parler des milliers d'autres qui vivent encore aujourd'hui avec des séquelles. Le patron emblématique du groupe Servier, qui a tout fait pendant des années pour cacher la vérité, Jacques Servier, est décédé en 2014. Ce procès du Mediator, c'est celui des laboratoires Servier, mais c'est aussi celui de tout le système de santé français, avec au plus haut niveau de l'État des autorités sanitaires qui ont fermé les yeux malgré les alertes sur la toxicité et la dangerosité du médicament. Le tribunal de Paris a condamné plusieurs personnes dans cette affaire de la prison avec sursis. Les parties civiles, elles, toutes les victimes, hein, elles estiment que les peines sont bien faibles au regard des préjudices subis. On parle, on l'a dit, de 2000 décès liés au médiateur. Il faut préciser que pendant toutes ces années, le médicament était remboursé par la Sécurité sociale. Le groupe Servier a donc commercialisé de 1976 à 2009 un médicament que les médecins prescrivaient facilement, puisque remboursé par la Sécu, mais dont il savait, le groupe Servier, qu'il était toxique et potentiellement mortel. Autre chiffre qui en dit long sur le scandale, de 1984 à 2010, le groupe Servier a vendu 144 millions de boîtes du médiateur, soit un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Le groupe a la possibilité de faire appel de la décision, tout comme les parties civiles, mais les avocats du groupe pharmaceutique, ce lundi, après le jugement, hein, disait devoir réfléchir et décortiquer les plusieurs milliers de pages du jugement. Servier a sans doute plus à perdre qu'à gagner à faire appel dans cette affaire. Une question d'image, hein, déjà, cela paraîtrait indécent de faire appel après un tel scandale. Et les parties civiles, rappelons-le, réclamaient au départ 1 milliard de dédommagements, dont 450 millions pour les caisses de l'assurance maladie. Là, à la lecture du jugement, Servier pourrait s'en tirer, entre guillemets, avec des dédommagements atteignant seulement un peu plus de 180 millions d'euros.
Alors, l'autre actualité sanitaire, c'est bien entendu le coronavirus et la pression plus que jamais sur le gouvernement.
Oui, la France ne s'en sort pas. Entre 30 000 et 40 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour en moyenne. Des régions comme l'Île-de-France où les services de réanimation sont saturés. Les médecins, les chefs de service, épidémiologistes appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Hein. Des tribunes paraissent dans les journaux où on interpelle les ministres et le président de la République. Ces médecins qui expliquent que dans quelques jours, ils seront obligés, faute de place dans les hôpitaux, de choisir qui on tente de sauver ou pas, obligé de trier les patients. Mais malgré ces chiffres alarmants, le président Emmanuel Macron garde sa ligne hein, pour l'instant. Ces derniers jours, il a expliqué qu'il ne regrettait pas la décision qu'il avait prise fin janvier de ne pas reconfiner le pays. Mais au fil des jours, cette stature donne l'impression d'un entêtement, le pari du chef de l'État, celui qu'il a pris fin janvier, car l'épidémie, oui, flambe partout et les décisions imposées il y a 10 jours qui étaient censées durcir un petit peu les contraintes dans certains départements, elles semblent complètement inefficaces. En ce moment, la pression est très forte sur les écoles. Le gouvernement, on le sait, veut tout faire pour les laisser ouvertes le plus longtemps possible, ne pas avoir à les refermer, assurer la continuité pédagogique. C'est plutôt louable et on peut le souligner, mais le gouvernement a dû concéder que désormais, quand un cas de Covid-19 était repéré dans une classe, hein, dès le premier élève, eh bien, la classe fermée le temps que les autres élèves s'isolent, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Un nouveau conseil de défense, en tout cas, est prévu ce mercredi et il ne serait pas étonnant que le chef de l'État, à l'issue de ce conseil de défense, mercredi ou en fin de semaine, prenne la parole dans la foulée, un nouveau confinement, ce confinement qu'il n'a pas voulu imposer fin janvier, eh bien Emmanuel Macron risque bien de devoir s'y résoudre ou encore de durcir les mesures actuelles. Hein, pour rappel, depuis un an, plus de 94 000 personnes sont mortes officiellement en France du Covid-19.
Merci Émile d'avoir décrypté pour nous l'actu en France cette semaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie, dans laquelle on va s'intéresser aux petites histoires nichées dans la grande, celle qui s'est écrite avec un grand H de ce pays qui, pour la plupart d'entre vous, est aussi désormais le vôtre. Cette série et tous les épisodes à venir, vous pourrez les retrouver sur notre site SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage, à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Et pour commencer, en beauté, on va vous expliquer comment l'Australie a failli devenir française. On va en parler avec notre collègue Grégory Pless. Bonjour Grégory.
Bonjour Christophe.
Alors Grégory, l'Australie telle qu'on la connaît, elle a été fondée par les Anglais en 1788. Avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment l'Australie aurait pu devenir donc un territoire français ?
Oui, alors en fait, au centre de cette affaire, il y a Napoléon Bonaparte. Et sous couvert d'expéditions scientifiques, il a envoyé à l'époque des espions en Australie au cours des premières années de la colonisation anglaise. Et ces espions, ils étaient chargés de rédiger des rapports sur les capacités de défense des Anglais sur place, essayer d'identifier de potentiels alliés en Australie qui accepteraient de se révolter contre les nouveaux maîtres des lieux. Et jusqu'à ce qu'un ordre officiel d'invasion soit donné par l'empereur Napoléon, mais qui n'a cet ordre jamais pu être mis à exécution.
Alors Grégory, l'histoire de Napoléon en Australie, elle commence en fait avant même qu'il ne devienne empereur ou premier consul.
Oui, effectivement, la première fois que Napoléon s'intéresse à l'Australie, il est tout jeune, il n'a que 16 ans. À l'époque, il est sous-lieutenant dans l'armée et il vient tout juste de sortir de l'école militaire à Paris. Alors, comme des milliers d'autres à cette époque à travers l'Europe, il a lu et il est fasciné par les récits des expéditions de James Cook à travers le Pacifique. D'ailleurs, il a énormément d'admiration pour lui. Et donc, on est en 1785, Louis XVI désigne Jean-François de Lapeyrouse pour mener une expédition autour du monde qui doit permettre de cartographier les endroits où James Cook n'est pas allé, mais aussi d'établir de nouvelles routes commerciales et de créer de nouveaux avant-postes français dans cette partie du monde qui est encore très mal connue. Bref, l'annonce de cette expédition, elle fait énormément de bruit en France. Il y a des milliers de personnes qui candidatent pour participer à cette aventure. Et parmi ces candidats, il y a donc un certain Napoléone di Buonaparte. À cette époque, il n'a pas encore francisé son nom, mais pas de chance pour lui, sa candidature n'est pas retenue. Et donc, plutôt que la marine, il s'engage finalement dans l'armée avec le succès qu'on lui connaît.
Ouais, succès, hein, parce qu'ensuite, eh bien, il se distingue très vite donc, au sein de l'armée. Il devient général, enchaîne les victoires et finit par devenir premier consul. Et c'est à ce moment que Napoléon s'intéresse à nouveau à l'Australie.
Oui, c'est le capitaine Nicolas Baudin qui est un officier de marine marchande chevronné qui vient réveiller l'intérêt de Napoléon pour ce bout du monde. Et il parvient à le convaincre de lancer une nouvelle expédition avec deux bateaux qui sont baptisés le Géographe et le Naturaliste. Le nom de ces navires qui partent du port du Havre en octobre 1800, ils ne sont pas choisis au hasard puisque le but de cette mission, c'est de finir de cartographier les côtes de l'Australie, qu'on appelle encore à l'époque la Nouvelle-Hollande, mais aussi de ramener autant de spécimens possibles de la faune et de la flore locale. Alors à bord de ces bateaux, il y a plus de 250 officiers, l'équipage bien sûr du bateau, mais aussi la fine fleur des scientifiques de l'époque, des botanistes, des zoologues, un astronome, un minéralogiste, un hydrographe, mais aussi des jardiniers et des illustrateurs. Alors la traversée, elle n'est pas particulièrement confortable parce que les deux navires ont été aménagés pour permettre au retour d'y entreposer des animaux et des plantes et ils sont aussi remplis de matériel qu'ont ramené les scientifiques, à tel point d'ailleurs qu'il a même fallu retirer des canons pour faire de la place. Mais parmi cette dream team de scientifiques, il y a un jeune homme qui dénote un peu, il s'appelle François Perron.
Ah, la dream team, alors Grégory, qui est ce François Perron ?
Alors, il participe à l'expédition en tant qu'anthropologue parce qu'il a réussi à convaincre le comité qui a sélectionné le scientifique qu'il fallait absolument quelqu'un pour étudier les populations aborigènes. Le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas anthropologue. Son seul fait d'armes en tant que scientifique, c'est d'avoir étudié à l'école de médecine à Paris. Mais d'ailleurs, il ne va même pas aller jusqu'au bout, il ne va pas être diplômé. Ceci dit, il s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle et c'est comme ça qu'il va devenir l'assistant de François de Jussieu. Jussieu, comme la fameuse université à Paris. Et ce François de Jussieu, à l'époque, il est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est aussi un homme très influent qui va peser de tout son poids pour que son protégé, François Perron, participe à cette expédition.
Alors, sauf qu'une fois arrivé en Australie, bien, François Perron ne semble pas très intéressé par la faune, la flore ou alors les aborigènes.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas d'après les journaux de bord ou ses propres notes et ses mémoires, il n'en parle quasiment pas. En revanche, il s'intéresse beaucoup aux Anglais, Il passe par exemple beaucoup de temps avec le gouverneur Philip Gidley King, qui dirige alors la colonie, mais aussi avec tous les autres dignitaires. Et puis il furette un peu partout dans Port Jackson. Port Jackson, c'est l'ancien nom donné à la ville de Sydney. Et il ne peut pas s'empêcher de remarquer que rien ou presque n'a été mis en place pour protéger la ville. Quasiment pas de fortifications, que ce soit sur la terre ou sur la mer, pour protéger le port. Et il rédige d'ailleurs une note sans ambiguïté selon laquelle, je cite, « seulement deux frégates pourraient bloquer une flotte entière ». Et la véritable raison de sa participation, elle apparaît encore plus clairement dans un rapport secret qu'il a rédigé. Je vous en lis un extrait. Toujours à la recherche de moyens d'humilier notre éternel rival, le premier consul, juste après la révolution du 18 Brumaire, a commandité cette expédition. Son véritable objectif ne pouvait pas être révélé au gouvernement d'Europe et encore moins aux Britanniques. Leur consentement à cette expédition se devait d'être unanime et pour l'obtenir, il était indispensable que nous soyons en apparence dénués de toute motivation politique.
Alors le véritable objectif des Français donc en Australie, c'est d'espionner les Anglais qui viennent tout juste de s'y installer. Mais a-t-on des preuves formelles que l'ordre a été donné de Napoléon ?
Alors non, effectivement, il n'y a aucune trace écrite d'un ordre donné par Napoléon, son état-major qui va en ce sens, mais en même temps, on parle là d'espionnage, une discipline où le maintien du secret est bien sûr vital, ça n'est donc pas forcément très surprenant. Et puis, comme je viens de le mentionner, on a des traces de rapports rédigés par François Perron, mais aussi par d'autres membres de l'équipage, comme par exemple Louis de Freycinet, à qui on attribue un autre rapport qui lui aussi est très clair. Je cite « La conquête de Port Jackson serait très aisée car les Anglais ont négligé tous les moyens de défense ». Un peu plus loin, il précise également que la résidence du gouverneur, celle du colonel du régiment des Nouvelles-Galles du Sud, les casernes et un bâtiment public sont les principaux édifices. Si nous les capturions, les autres bâtiments, 300 à 400 maisons de petite taille, tomberaient naturellement entre les mains du conquérant. Voilà, je pense que c'est difficile d'être plus clair.
Ouais, c'est clair. Donc on peut dire que quelques années plus tard, Napoléon élabore un projet d'envahir l'Australie.
Oui, et alors là, pour le coup, il y a bien une trace écrite dans sa correspondance. On peut même la consulter sur Internet, en fait, sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Cette lettre, elle date du 9 juin 1810. Elle est adressée au ministre de la Marine, qui est en fait à l'époque le ministre de la Guerre, et lui demande d'envoyer des frégates et 1500 hommes en direction de l'Île-de-France. L'Île-de-France, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'époque à l'île Maurice, et il conclut cette lettre par ces mots. On proposerait à l'arrivée de ces expéditions de faire prendre la colonie de Jackson, qui est au sud de l'île de France et où l'on trouverait des ressources considérables. Alors voilà, en termes géographiques, tout ça n'est pas très précis, mais dans l'esprit des Français à l'époque, en tout cas, c'est très clair. Et effectivement, donc, la colonie de Jackson, en fait, c'est l'Australie, et c'est donc au total avec 5 à 6 000 hommes et quelques frégates que Napoléon comptait en chasser les Anglais.
Et pourtant, cette attaque n'a jamais eu lieu.
Et non, en effet, tout simplement parce que cette invasion, elle n'a pas eu lieu assez vite. Quelques mois seulement après que Napoléon ait donné cet ordre, en décembre 1810, ce sont les Anglais qui ont attaqué l'île de France, donc l'île Maurice donc, et qui ont vaincu les Français. Et comme les Anglais en Australie, les Français à l'île Maurice ne disposaient pas d'une défense suffisante sur place. À l'époque, celui qui dirige l'île, c'est le général Decamps. Il était à la tête d'environ 1300 soldats, mais en face d'eux, il y avait plus de 7000 militaires anglais, mais aussi 22 navires de guerre le long des côtes, dont les canons ont rapidement poussé les Français à capituler. Les Français ayant donc perdu Maurice, qui devait servir de base arrière pour l'invasion de l'Australie, eh bien, ils ont tout simplement abandonner le projet d'en prendre un jour possession.
On peut dire que c'est l'arroseur arrosé. Hein. Grégory, si on veut en savoir un peu plus sur cette histoire, est-ce qu'il y a des ouvrages que l'on peut lire ?
Oui, alors il en existe un certain nombre, mais celui que je vous recommande vraiment et que j'ai utilisé comme base pour vous raconter cette histoire, c'est un livre qui a été écrit par un ancien journaliste du Sydney Morning Herald qui s'appelle Terry Smythe. Et son livre, il s'appelle « Napoleon's Australia ». C'est très documenté et en même temps, ça se lit comme un roman. Il est sorti en août 2018 et vous le trouverez assez facilement dans les librairies en Australie.
Voilà, merci Grégory.
Merci.
Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Nous espérons que vous l'avez donc apprécié. On reviendra prochainement avec un nouveau podcast sur Napoléon et l'Australie, où pour être plus précis, on parlera surtout de sa femme Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore australienne. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
Et donc, je vous le disais, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui, SBS en français. Notre prochain rendez-vous ensemble, ce sera jeudi à 13h précise pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, vous pouvez continuer à nous écouter en podcast sur notre application SBS Radio, mais aussi en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, celles que vous utilisez par exemple. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt.
Dis-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.